Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Radio Foot International. Avant une semaine de Coupe d'Europe en folie et le début des quarts de finale très attendus, que la dame, on se calme tout de suite, abordera bien sûr dès demain, mardi. Je vous annonce en même temps son retour, comme ça tout le monde est content, il y a le programme aussi. Avant cela donc, évacuons le week-end. Il ne s'y est pas passé grand-chose. Sauf en Angleterre, tiens, comme par hasard, on ne se lasse pas de ce mano à mano du trio, the top of the top de la Première Ligue. Cette semaine, ce sera donc Arsenal, le leader, ça change tous les 3 ou 4 jours, devant Liverpool et City, ça ne change pas grand-chose, ces trois-là sont devant et pour longtemps. Toujours quelques buts et un point, pas plus, entre ces trois-là. Une régalade permanente et un choc hier qui a tenu toutes ses promesses à Old Trafford. Oui, moi j'appelle encore ce stade comme l'ancien nom, c'est mieux, c'est plus joli et c'est plus classique. 2-2 entre Red Devils et Reds, de sublimes buts et du suspense. La veille, c'était Kevin De Bruyne qui avait régalé. Bref, cette Première Ligue est un sujet permanent et on ne va pas se priver d'en causer. Un œil moniol, je vous vois lever les yeux au ciel, mais de contentement.
Ah oui, tout à fait. Salut Olivier, salut à tous. Moi, la Première Ligue, je suis très client, tout le temps de toute façon.
La Ligue 1 aussi, quelque part, est surprenante. Pas vraiment au sens spectaculaire du terme, soyons honnêtes. Mais tout de même, qui aurait misé sur Brest en Ligue des Champions la saison prochaine? Personne, et pourtant, c'est quasiment fait. Qui, en octobre ou en novembre dernier, ou même encore en janvier, voire en février, aurait misé sur le fait que Lyon serait à un point de l'OM à 6 journées de la fin et dans une dynamique où l'Europe n'est plus un mythe, une chimère alors qu'elle est en train de le devenir pour les Marseillais. L'Europe, mais la grande, la C1, tout proche aussi pour Lille. Pas vrai tout ça, Yoru Mangara? Bonjour.
Oui, ils font un retour exceptionnel, Lille. Il faudra compter sur cette équipe du Nord.
Le dernier quart d'heure de l'émission sera bien sûr consacré aux Coupes d'Afrique des clubs. On est en avance sur l'Europe, sur le continent. Les derniers carrés sont connus et tous les gros ou presque sont là. Les tenants du titre, les titrés du passé. On aurait aimé à titre personnel et francophone y retrouver la SEC en C1 et en C2 le Stade Malien. La marche était hélas un peu trop haute, surtout quand le manque de réussite s'en mêle. D'accord avec ce premier constat, Franck Simon?
Oui, le gros est là. Salut Olivier, salut Naïm,
salut Yoro.
Oui, oui, je suis salut. Tout à fait d'accord avec vous.
Allez, toujours pas le temps de niaiser. Pierre-Olivier Guérin n'a pas chômé Mathieu De Gueldre à tout monter. Alors on peut y aller avec d'abord vos réactions à vous tous. Tiens, on commence par ça et forcément ce week-end vous a fait réagir sur la Première Ligue et sur d'autres choses encore. On écoute.
Salut Radio Foot International, ici Jean-Ned Pedro depuis Brazza au Congo. Pour moi, Manchester City de Guardiola et De Bruyne sera champion d'Angleterre.
Bonjour Olivier, je pense que le TP Mazembe jouera en finale contre le Mamelodi Sundowns. C'est Faustin Katanga depuis Kinshasa.
Bon après-midi à toute l'équipe de Radio Foot International. Je suis Odon Moindo depuis la RDC. À mon avis, je crois que Arsenal sera champion d'Angleterre et le club des Gunners remportera ainsi sa 14e Première Ligue de son histoire.
Bonjour Radio Foot, c'est Ibrahim Mamba depuis Kinshasa. Je mise sur les sacres de Liverpool et je vois le grand retour du tout-puissant Mazembe qui jouera la finale face à l'Espérance des Tunisiens. Bonne émission à vous.
Bonjour Radio Foot, c'est Mathieu depuis la ville de Bujumbura au Burundi. Je vois les Sky Blues, sacré champion d'Angleterre cette saison. Et Al Ahly contre Esperance de Tunis en finale de la Ligue des Champions africaines.
Un duel grandiose entre Manchester United et Liverpool. Et c'est un match fondamental pour les Reds dans la course au titre. Darwin Núñez, Luis Diaz! Luis Diaz et Liverpool qui assument leur statut. Liverpool tient tête et mène 1-0 à Old Trafford. Bruno Fernandes du milieu de terrain. Bruno Fernandes pour un but légendaire.
Bruno Fernandes a fait un but.
Manchester United 2, Liverpool 2.
Je vais revenir forcément à l'antenne. Bah alors, pépère, bah oui, on s'extasie sur la pop anglaise, monsieur De Gueldre, et on me coupe la chic. Quelle honte, vous serez châtié. Ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, vous les auditeurs. Ils nous parlent de Première Ligue, on attaque par la Première Ligue. Ils nous parlent de Ligue des Champions en Afrique, on terminera par la Ligue des Champions. Ce sont eux, les auditeurs, qui font le programme, vous le savez, ou presque. J'aimais bien entendre le commentateur Kobbie Mainoo, le nom. Je me demandais hier comment prononçait-on ce nom-là de ce buteur hier soir, hier après-midi, Mainoo du côté de Manchester United, Liverpool. Bref, qu'on le veuille ou non, la Première Ligue est chaque jour ou presque incontournable. Alors le bilan du week-end d'abord. City gagne à Crystal Palace 4-2, c'était samedi. Arsenal un petit peu plus tard à Brighton 3-0. Et hier, un choc loin d'être en toc. Et deux points de perdu, a priori, pour Liverpool à Manchester United.
On a gagné.
2-2. Ouais, il réagit déjà, notre ami Naïm Moniol. On va y arriver. Du coup, au classement, Arsenal devant la différence de but sur Liverpool. City 3e à un point. 7 matchs encore à jouer. Votre regard sur ces résultats. Je vous ai vu tout de suite réagir, Naïm, quand j'ai dit « Tiens, Liverpool a perdu 2 points à Manchester United. »
Ah oui, c'est clairement 2 points de perdu, puisque c'est doré. De toute façon, des trois, c'est celle qui dégage le moins de puissance. Non pas qu'elle soit complètement larguée, pas du tout, au contraire. Mais je pense que Manchester United est devenu, à son corps défendant, un repère en Première Ligue. Et perdre, comme ça a été le cas en Cup il y a quelques semaines, et faire match nul, concéder le nul encore ce week-end, n'est pas un bon indicateur pour Liverpool, qui a en plus des problèmes d'effectifs monstrueux. Ils tirent sur la corde, C'est l'effectif le moins fourni des trois et je pense qu'à un moment donné, ça va bien finir par lâcher. Malheureusement pour eux, c'est très bien ce qu'ils font. Mais c'est l'équipe qui, des trois, me paraît la moins de puissance. Alors qu'à l'inverse, même s'ils ont été en difficulté et contre Palace et contre Villa il y a 4 jours, je sens Manchester City terminer en boulet de canon.
Yoro.
Alors moi,
Attention, il a un petit papier, Yoro. Ça veut dire qu'il a pris
une fiche. Je me suis amusé à regarder le calendrier.
Pour tout vous dire, amis auditeurs, Naïm Moniol a une petite bouteille d'eau. Yoro a une fiche. Et alors,
et c'est bonbon,
notre
lui.
Ami Franck Simon a volé les bonbons de son fils. Et lui, il a deux téléphones et un carnet. C'est vous dire si tout le monde est équipé.
Je me suis amusé à regarder le calendrier, bien sûr. Mais je vois que Arsenal, lors de la 34e journée, va recevoir Aston Villa. Après, oui. Arsenal ira à Wolverhampton. Arsenal va se déplacer 2 fois. Après, Arsenal ira à Tottenham. Je crois que par rapport au calendrier, celui de Liverpool est beaucoup plus abordable. Après, attention, parce que moi, sur ces 3 équipes, je mettrai une pièce sur City, parce que c'est une équipe qui termine tout le temps en boulet de canon. Elle l'a fait ces 3 dernières saisons et ça fait quand même plus de 20 matchs qu'elle est invaincue.
Et puis... Non, je t'en prie, vas-y, termine.
Non, mais je
me dis... Vaincu depuis le 6 décembre,
c'est
vous vous rendez compte?
C'est ça.
Depuis le 6 décembre.
C'est quelque chose de très intéressant qu'il faut noter, c'est que c'est invaincu depuis 20 matchs, mais c'est à chaque fois une équipe qui est en difficulté. C'est ce que je souligne sur ces dernières semaines.
Exactement.
C'est que c'est une équipe, tu peux la mener au score. Le but qu'elle prend face à Palace, là, le premier par Mateta, c'est exactement le même que le contre Aston Villa. C'est du copier-coller. C'est une équipe qui prend des buts. C'est fini l'époque où City défendait bien gros bloc.
On va revenir équipe par équipe. D'accord. D'abord, je veux l'avis de Franck Simon sur ce qui s'est passé ce week-end dans ce championnat anglais et son avis sur ce qui peut se passer ensuite.
Peut-être que Liverpool a perdu le titre.
Ah, vous pensez-vous, hier, ce match nul,
ça... Je pense que ça peut, oui, parce que...
Vous me rendez triste, là, tous les
pourquoi
trois.
Mais pourquoi? Non, ne soyez pas triste. C'est des points qui laissent filer. Et quand tu regardes la première période, tu dis qu'il doit finir avec un paquet de buts d'avance. Hein, en tout cas, un peu plus de 2 ou 3, quoi. Et à l'arrivée, effectivement, ils se font becter. Et alors, je lis partout les commentaires post-match. Ouais, puis Mo Salah sauve Liverpool. Mais Mo Salah, il en a loupé hier. Hein. C'était pas du grand Mo Salah. Donc, je suis de l'avis de penser que pour Liverpool, ouais, c'est des points qui leur feront défaut. Et pour corroborer l'analyse de mes camarades, on connaît la méthode des Citizens. Voilà, on sait que eux, ils arrivent à l'heure. Ils arrivent à l'heure et ils arrivent très vite.
Alors, un petit point sur Arsenal. Arsenal, donc, qui a gagné à Brighton 3-0. On a l'impression que
non-événement, quand même.
Ça déroule. 10 victoires, 1 nul sur les 11 derniers matchs de Première Ligue. Bukayo Saka revient à nouveau en pleine forme. Buteur, 14e but en Première Ligue, 17e but cette saison. Trossard et Kai Havertz, qui marchent très très fort aussi, ont marqué. C'est l'équipe qui a le calendrier le plus compliqué, Arsenal, quand même. Reçoit Aston Villa. Villa le 14 avril. Le 28 va à Tottenham, qui sera un sacré arbitre dans la lutte pour le titre. Et puis le 11 mai, toujours cette date qu'il faut retenir car elle est magnifique, le 11 mai à Manchester United, on a vu hier qu'on pouvait y perdre des points dans ce stade.
Arsenal, c'est l'anti-Manchester City, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'est jamais mise en difficulté dans ses matchs. Si vous prenez les 15-20 derniers matchs, c'est une équipe, c'est un rouleau compresseur. Guardiola a raison, c'est la seule équipe qui peut gagner un match en 25 minutes. C'est un très gros pouvoir offensif, c'est une équipe qui concède peu de buts et quand elle en concède, elle en a déjà 2-3 d'avance. Mais lorsqu'elle est mise en difficulté, tu l'as vu notamment sur la Ligue des Champions, l'Europe va être aussi un juge de paix pour ces trois équipes-là. C'est une équipe qui
Arsenal
peut perdre
Bayern, on le rappelle.
C'est une équipe, donc c'est l'équipe des trois qui peut sortir le plus vite de Coupe d'Europe. C'est une équipe qui, quand elle est mise en difficulté, a peut-être le moins de facilité à s'en sortir. Liverpool aussi, quand ils sont mis, sont menés au score, ils arrivent à revenir. Mais par rapport à Manchester City, c'est l'équipe qui, quand elle est mise en difficulté, perd peut-être le plus de points, le plus ses moyens. Donc c'est un gros pouvoir offensif. C'est aussi un 11 de départ, finalement, qui tourne peu. C'est-à-dire que tu as les 11, tu as les 3-4, la rotation, elle est très connue. Ceux qui rentrent et ceux qui sortent, tu sais à peu près d'avance qui va rentrer, qui va sortir, à quel moment du match. Il y a moins de surprises que Manchester City, qui a une variété à la fois de joueurs et de systèmes de jeu qui peut lui permettre d'aller plus loin. Mais le fait qu'Arsenal... Le 8 avril, soit donc à 7 journées de la fin, soit leader de Première Ligue, c'est déjà une victoire en soi, évidemment. Si le 30 mai, ils sont deuxième ou troisième, je comprendrai leur frustration. Mais ça, déjà, ça valide tout le travail qui a été fait l'année dernière et ça laisse espérer pour la suite. Mais je reste sur mes positions. Pour moi, l'Arsenal ne sera pas champion.
Que vous inspire Arsenal, mon cher Yoro ?
C'est une belle équipe déjà.
C'est une équipe jeune, c'est une équipe qu'on est content de revoir.
Exactement, parce que quand même, le dernier titre des Gunners, c'était les Invincibles de 2004. Ça fait 20 ans pile poil qu'ils ne sont pas champions. Après, sur le plan du jeu, c'est l'équipe qui a plus de certitudes. Mais je crois qu'il leur manque ce grand buteur. Il marque énormément de buts, parce que ça peut venir de tous les côtés. Ça peut venir de l'axe, ça peut venir du milieu de terrain, même du banc avec Trossard. Mais il leur manque un buteur qui te fait 20-25 buts pour qu'il passe ce cap. Parce que derrière, c'est très solide. Ils prennent peu de buts. Et puis, je ne sais même pas pourquoi Didier Deschamps ne fait pas de Saliba en titulaire en équipe de France. C'est une parenthèse. Mais vu la saison qu'il nous fait, c'est énorme. Avec Gabriel, belle entente. C'est une équipe que j'aimerais voir championne. Mais je ne sais pas. Je crois qu'elle a laissé pas mal de points lors du mois de décembre.
L'histoire des joueurs qui sont bons en club et moins bons en sélection, pour en citer quelques-uns, Randal Kolo Muani et d'autres. Bon, c'est ainsi, on espère tous que ça viendra pour Saliba comme pour Kolo Muani, peut-être à l'Euro. Franck, votre avis sur les Gunners ? Ça, c'est une équipe qui vous plaît, je le sais.
Bah, je les déteste pas, je suis comme tout le monde. Hein. Je les ai vus jouer à différents moments de la saison. On se régale. Et puis, moi, j'aime cette jeunesse. J'aime la jeunesse au pouvoir. Il y a une époque, tu avais des briscards dans cette équipe. Là, ça l'est un peu moins. Donc, on est heureux de les voir dérouler.
C'est ce qui pourrait manquer, d'ailleurs, dans le Money Time.
Peut-être.
Le fait qu'il y ait un manque d'expérience.
Le manque d'expérience à cette journée de la fin, t'en parles plus.
C'est pas sur même leur propre parcours. Vous voyez les matchs qui leur restent. C'est le fait que City déboule. Déboule très vite. Et s'il y avait encore un gap important, mais là non, ils sont juste là et ils attendent.
Et puis comme je te dis, hein, Arsenal, ils ont un 11, ils ont les 3-4 mêmes remplaçants. Si ça commence à s'effriter, je leur souhaite pas.
Mais faut pas de blessés, faut pas de suspendus.
S'il faut trouver d'autres solutions, ça risque d'être beaucoup
plus. Faut pas perdre de face au Bayern. Non, mais c'est tellement mal en point.
C'est un truc qui est fou, c'est que ils ont. Je vais pas dire qu'ils ont perdu le goût de l'adversité, mais ils sont jamais mis en difficulté. C'est, tu regardes un match d'Arsenal, il y a pas un quart d'heure dans le match, tu te dis putain la série craque quand même, il leur arrive si.
Ils maîtrisent.
Et ça veut pas dire qu'ils prennent pas but, qu'ils concèdent pas d'occasion, mais derrière c'est des attaques défense à n'en plus finir. Et tu te dis cette équipe là face à une équipe qui arrive à les mettre en difficulté, à leur prendre le ballon, à évoluer dans leur moitié de terrain et à arriver à jouer derrière leur défense, à prendre l'intervalle derrière les défenseurs, tu te dis comment ça réagit. Parce que je pense qu'ils ont perdu depuis 6 mois, ils ont perdu le fait d'être bousculés.
Ils risquent de l'être très vite.
Franck, vous dites que c'est autre chose, mais ça va compter quand même, ces quarts de finale. City contre le Real, Arsenal face au Bayern, même pas très en forme, le Bayern peut faire de cette Ligue des Champions son supplément d'âme et son objectif. Ils n'ont plus que ça, effectivement.
Mais Arsenal est dans la quête d'un titre, Yoro le rappelait, depuis combien de temps ? Donc, après, on ne fait pas de choix. Tes joueurs, tu prends, comme on dit trivialement, tu prends les matchs les uns après les autres. Mais je pense que si tu sors de la Ligue des Champions, La Première Ligue, le titre, c'est quand même c'est une autre saveur.
À condition,
ils sont assis sur le trône, mais enfin, ça leur brûle les fesses.
Faut pas perdre trop de jus. City, ce qui tombe mal pour les adversaires de City, c'est le retour en forme stratosphérique de Kevin De Bruyne. Ça lui va bien, cette nouvelle coupe de cheveux. Hein, ça a tout changé. Déjà qu'il n'était pas mauvais avant, mais alors maintenant, deux buts, une passe décisive, tranquille.
Pas les petits buts
du dimanche matin, tu vois, de Yoro Mangara et ses copains quand ils arrivent au lendemain d'une soirée compliquée.
Je pense qu'il est même plus beau que celui de Fernandez contre Liverpool.
Je vous propose qu'on l'écoute, Kevin De Bruyne, ça fait toujours plaisir. On aurait aimé un Français. Enfin,
On
écoute Kevin De Bruyne.
Je vis une saison atypique. J'ai été absent pendant 6 mois. Il y a des moments où je me sens bien et d'autres où je sens que mon corps n'est pas tout à fait prêt. Mais j'essaye de faire du mieux possible sur le terrain. Mes jeunes coéquipiers ont beaucoup de talent et me mettent la pression. Le plus dur à mon âge, c'est de garder un bon niveau. Si je ne suis pas bon, je perdrai ma place. C'est un bon résultat, mais on ne compte pas s'arrêter là. Nous devons jouer le mieux possible jusqu'à la fin de la saison et faire le plein de points. Ensuite, on verra comment nos concurrents s'en sortent. Mais d'ici là, on a un petit match à disputer en Ligue des Champions, donc ce qui compte, c'est de vite rentrer à la maison, bien récupérer pour être au top mardi soir.
Ouais, c'est un tout petit match.
C'est un jour au bureau, les Anglais aiment bien cette expression. C'est un jour, day at the office. Hein, un jour au bureau.
C'est vrai
j'aime ces expressions.
Demain mardi...
C'est autre chose.
Bon, voilà, c'est Bayern-Arsenal, c'est dans cet ordre-là. Et Manchester City-Real.
Real Madrid.
Voilà. Real City. C'est l'aller à Madrid.
J'ai plus l'ordre exact.
D'un coup, j'ai plus l'ordre exact non plus, mais on va retrouver ça. Bref, de toute façon, ce sont deux super affiches sur lesquelles, on l'a dit, la dame reviendra dès demain. C'est vrai que De Bruyne, c'est impensable d'imaginer qu'il a 6 mois d'arrêt et le mec revient encore plus fort.
C'est même pas la période d'arrêt, c'est la période de retour, parce qu'on en parlait là pendant le sonore. Quand t'as ce type de blessure d'absence 6 mois, il t'en faut 3-4 pour revenir surtout à son âge. Hein. Est-ce qu'il a mis 15 jours à revenir? Moi, je me rappelle de son retour.
Deux passes D.
Ouais. Il rentre en cours de jeu, en cours de match. Il doit rentrer à la 60e minute, fait deux passes décisives. Le match qui suit, il est titulaire, il est homme du match. Alors, on les connaît, toutes ces qualités à Kevin De Bruyne, techniquement, tactiquement, le fait qu'il soit fort, qu'il ait une qualité de coup de pied arrêté qui est probablement la meilleure du monde actuellement, depuis quelques années d'ailleurs, mais le fait qu'il soit revenu aussi fort dans une équipe où le niveau est très élevé, parce que si à ce niveau-là, s'il revient à l'Olympique de Marseille, c'est normal qu'il soit le meilleur sur une jambe. Mais à Manchester City, c'est quand même le niveau très, très au-dessus, et il est fantastique, et surtout... Quand tu as un joueur de cette qualité et que tu le perds 6 mois, tu te dis mais comment je vais faire, alors que les autres, bah, avec l'éventail qu'ils ont, les Foden et les Rodri et les machins, ils ont continué à être au top du top. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'équipe qui va aller au bout. Parce que comment peut-on ne pas aller au bout quand on a autant les planètes qui s'alignent sur à peu près tous les secteurs?
Passeur décisif pour Haaland, 19e but. Foden, vous en parliez, 14 buts cette saison. Lui en super forme, on l'a dit. Le dernier gros rendez-vous, ce sera à Tottenham. Forcément, merci pour cette longue intervention. J'ai pu checker Real Madrid, Manchester City et Arsenal, Bayern. C'est dans cet ordre-là, demain à 19h, temps universel. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Kevin De Bruyne, l'un ou l'autre?
Ben non,
ou sur Haaland qui marque son 19e but? Il en avait besoin parce que ça tournait moins bien.
Il va certes moins vite, mais il a un coup d'œil, il a cette rapidité d'exécution et cette précision avec le ballon. Voilà, même s'il va moins vite, il compense par ses yeux et par la qualité de sa passe. Derrière, il y a Foden, quoi. Ce joueur, il est extraordinaire et je crois qu'il sera MVP cette année en Première Ligue.
C'est fort possible, ouais.
Franck, un petit mot sur City avant de passer à Liverpool.
Et sur City, parce que là où vous évoquiez De Bruyne, dire qu'on peut faire sans lui, c'est dire la richesse, c'est rappeler ça aussi. La richesse, l'intelligence, la gestion du blessé. Bravo à qui? Alors bravo à l'encadrement médical, bravo au gars d'être revenu. Voilà, il n'est peut-être pas à 100%, mais...
Et à Pep d'avoir su, sans doute.
Et avoir su se priver de lui suffisamment pour lui permettre de revenir. Franchement, c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Donc, c'est pour ça... Pour revenir à City, je ne les vois pas capoter avant la fin. Quoi.
Oui, bon, bah, j'ai compris. Liverpool
sera
pas champion.
Ça y est, hein,
bon. On y croyait au supplément d'âme de Liverpool avec cet
terminé.
Arrêt de Jürgen Klopp. On aimerait bien le voir encore soulever un trophée, cet homme-là. Donc, on est tous d'accord. Bah,
Ligue Europa, hein.
Oui, bien sûr. Il a déjà soulevé la Coupe de la Ligue en Angleterre.
Yes.
Je crois bien, il y a quelques semaines déjà. Ouais, hein, c'est vrai que ça va vite. Jürgen Klopp satisfait, lui, hier, de ce match nul. Il est même agacé qu'on lui parle de la différence de but avec Arsenal. On l'écoute.
Écoutez, je sais ce que les journalistes et les supporters vont nous reprocher. Arsenal a une meilleure différence de but et c'est quelque chose que nous devons améliorer. Et je vous réponds que c'est la chose la plus stupide qui soit. Cela ne se fait pas comme ça. On ne débute pas un match en se disant qu'on va mettre 8 buts et que ça va se réaliser. C'est impossible. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes comme nous sommes. C'est pour cela que nous restons dans la course et ça me convient très bien. Je savais que ce serait très compliqué jusqu'à la fin.
6 victoires, 2 nuls sur les 8 derniers matchs en Première Ligue pour les hommes de Klopp. Bon, voilà, ça tourne. Le 4 mai, il faudra recevoir Tottenham, on l'a dit, qui sera le vrai arbitre dans cette lutte pour le titre. Et puis, il faudra aller le 11 mai, à défaut de venir à mon anniversaire, ils iront à Aston Villa. Ça va être vachement moins sympa, a priori, pour eux, Aston Villa. Je vous vois faire un peu la moue, Yoro.
Oui, mais je crois qu'ils sont très forts au milieu, mais devant, quand on voit les occasions que rate Darwin Núñez, c'est impossible à ce niveau.
Énorme. Darwin
Núñez, il a toujours raté des trucs. C'est-à-dire que même depuis qu'il est arrivé, il met des buts, mais il en rate toujours autant au moins.
Ça mérite d'être souligné. Il a raison, Yoro.
Franchement, mais son ratio occasion but, effectivement, il pense à faveur.
Franchement, et d'autant plus que Salah est moins bon ces derniers temps, vraiment.
17 buts quand même. Il est à deux longueurs d'Haaland et il a été absent lui aussi pendant toute la CAN, plus comme blessé, il a été absent deux mois
aussi à la Coupe d'Afrique. Quoi.
Ouais.
Le problème, c'est que c'est une équipe et c'est tout à mettre au crédit de Klopp. Ils arrivent à rentabiliser le moindre joueur, le moindre jeune qu'ils vont chercher à l'académie. Ils le font jouer un quart d'heure, l'autre il va mettre le pied pour empêcher un but, faire une passe D, marquer. Donc Liverpool est dans un état de rentabilité maximale. C'est fantastique que ça dure et ça ne peut pas être une coïncidence si ça dure encore aujourd'hui. Mais je les sens tellement sur la corde raide.
Ah, tu sens le point de rupture là.
Bah ouais, parce que puis à un moment donné, tu regardes derrière. Van Dijk est quand même nettement moins fort, hein, depuis 2 ans. Dès que tu te passes par exemple de Konaté, bah, c'est une équipe qui défensivement est en difficulté. Et puis Darwin Núñez, il rate énormément. Et puis même au niveau de l'état d'esprit, c'est une équipe que tu sens souffrir rapidement, qui t'es toujours dans l'excès, toujours en réserve, toujours aller chercher le bout du bout du bout. Et à un moment donné, c'est l'équipe qui me paraît vraiment être, oui, fin de cycle, mais c'est surtout l'effectif est très court. L'effectif est très très court, beaucoup trop court. L'Angleterre, tu sais que tu as besoin d'avoir plus de joueurs que par exemple quand tu es en Italie ou en France.
L'Angleterre et la scène européenne.
Oui, ouais, parce que la différence. T'es pas à l'abri de je sais pas quoi, ils ont perdu contre Toulouse, la preuve. Mais Liverpool a quand même plus de chances d'aller au bout de la Ligue Europa qu'Arsenal de la Ligue des Champions. Et donc à un moment donné, ton calendrier, tu sais que tu pars pour 50, 50 et 60 matchs, sans compter les matchs internationaux.
À un moment donné, tu dis, c'est tellement vrai qu'au milieu, les deux, Endo et Szoboszlai, ils ne sont pas habitués à jouer à ce rythme-là, 60, 70 matchs, haute compétition. Endo, il a 31 ans. Moi, avant de venir, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire à Liverpool? Il fait une excellente saison. Mais là, il est sur la corde raide, c'est fini, quoi. Parce que là, ils sont en train de presser le citron jusqu'au bout.
Bon, si je résume, c'est Manchester City qui va être champion, Arsenal va s'en mordre les doigts et Liverpool comprendra assez vite qu'il faudra se contenter de la Ligue Europa. J'ai bien résumé vos propos.
C'est le pronostic du moment.
Ouais, c'est le pronostic du moment. C'est marrant de constater qu'Aston Villa et Tottenham, dont on a parlé, seront les arbitres de ce titre. Et en même temps, ces deux équipes luttent l'une contre elle pour la dernière place européenne, européenne, Ligue des champions, la quatrième. Il n'y a plus qu'eux, hein, parce que le cinquième, sixième en fait, c'est Manchester United à 11 longueurs. Aston Villa et Tottenham sont respectivement quatrième et cinquième avec 60 points chacun. Le sixième, c'est donc Manchester United, 49 points à 11 longueurs. Donc c'est rigolo d'avoir ces deux équipes qui peuvent empêcher les unes ou les autres d'être champions et en plus qui doivent jouer jusqu'au bout, qui ne peuvent rien lâcher parce qu'il y a une place en Ligue des Champions la saison prochaine.
Oui, alors attention parce que si Arsenal ou City gagne la Ligue des Champions, la cinquième place du championnat.
Elle devient,
je crois même, faudrait que je vérifie, est-ce qu'avec la nouvelle formule de Ligue des Champions.
Le sixième et le septième, on va se retrouver comme en Champions Cup, en rugby, c'est ça, on va qualifier un tiers de chaque championnat.
Ça va être du top 14, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, mis à part les relégués, tout le monde ira en Coupe d'Europe, hein. Ça va être clair et net. Hein. Mais après Tottenham fait une super saison, Aston Villa, je pense qu'ils sont nettement de ça, en tout cas dans les confrontations directes, tu vois le match contre Manchester City. Ils ont mis un super but, un contre sur 70 mètres, il n'y a rien à dire, mais enfin derrière, ça a quand même bien tiré la langue. Donc je pense que Tottenham a un petit petit cran d'avance.
Bon, vous m'avez bien fatigué là avec votre première ligue, là, vos pronostics. Place au vrai football, s'il vous plaît. Place au vrai football.
On a fait un très bon match.
On a été très mauvais. Très mauvais.
Et voilà, fier de l'équipe.
On doit tous se regarder dans une glace, prendre ses responsabilités. Responsabilités.
On a fait cadeau du match, c'est ça.
Et c'est terminé. Les Monégas s'imposent 1-0 dans un match étrange.
Bon, j'étais un peu ironique, hein, vous l'avez bien compris. C'est parfois un peu abrupt de passer de la première ligue à la Ligue 1, mais là
vous
aussi...
Vous étiez très cocorico, finalement.
Il y a du suspense. On va prendre les matchs comme ils sont venus et remonter jusqu'à vendredi soir, parce qu'il est important ce match-là. Cette victoire de Lille sur Marseille, 3-1. Parlons de l'OM, cette quatrième défaite de rang après 5 succès. Alors ça y est, Jean-Louis Gasset, c'était le top du top, 5 succès, puis hop, la machine s'enraye, mais parce que l'adversité a été nettement plus compliquée.
Parce qu'à chaque fois qu'ils rencontrent les 5 équipes qui sont aux 5 premières places, ils perdent. Parce que ça prouve que voilà, l'OM, cette saison...
C'est... Je crois qu'ils en sont à 7 défaites en 7 matchs sur le top 8 actuel de la Ligue 1.
Oui, ils ont battu Brest à la 3e journée. Je crois que derrière, c'est que des défaites.
Exact.
Je vous propose d'écouter, pour bien que vous compreniez le match qu'ont réalisé les Marseillais vendredi, autant en écouter un. Et ce son-là fait plaisir à entendre. Jordan Veretout, il ne cache rien de son désarroi.
Aujourd'hui, on a été mauvais. On a été mauvais, il ne faut pas se cacher. Il faut arrêter de trouver des excuses. On donne le match. On donne le match et à ce niveau-là, on n'a pas le droit. C'est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladés, on leur donne des buts. On n'a pas le droit. Quand tu es l'Olympique de Marseille et que tu as des ambitions, tu n'as pas le droit de faire le match qu'on fait ce soir. Et voilà, ce soir, ça, c'est une défaite qui fait très mal. Il faut arrêter de se cacher. Il faut retourner au charbon et dès jeudi parce qu'on a un quart de finale de Ligue Europa. Et si on joue comme ça, on se fera sortir.
Ah oui, à Lisbonne face au Benfica jeudi, ça risque d'être chaud, il va falloir jouer un peu mieux. Et puis surtout, cette statistique qui fait peur, surtout avant un match de Coupe d'Europe, au moins un but encaissé lors de ces 18 derniers déplacements à l'Olympique de Marseille, hein, qui plonge au pire moment.
Oui, alors moi je vais te dire, que Marseille soit en grande difficulté face aux équipes du top 4, du top 5, c'est pas étonnant parce qu'en réalité, Marseille a été en difficulté sur tous ses gros matchs depuis le début de l'année. On nous a même dit que Panathinaikos était une grosse équipe hein, pour justifier la défaite, ce qui n'était évidemment pas le cas, mais pour te dire. Moi, je vais te dire ce qui m'inquiète sur les 4 derniers matchs de Marseille, c'est-à-dire...
Les 4 défaites, donc.
Les 4 défaites. C'est l'absence d'état d'esprit. Marseille, tu peux dire ce que tu veux. On a toujours essayé de nous faire croire que des mauvais joueurs étaient de très bons joueurs, que des joueurs moyens étaient des génies. Certains consultants sont payés pour ça ici. Très bien, pas de problème. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut jamais retirer à Marseille, c'est leur état d'esprit. C'est toujours des joueurs qui étaient volontaires, qui se bagarraient jusqu'au bout et qui souvent venaient compenser leurs lacunes techniques, leurs lacunes tactiques, leur intelligence parfois de QI foot, par une débauche d'énergie qui faisait plaisir à voir. Sur les 4 matchs que je te cite, donc Villarreal et les 3 derniers, là, Rennes, Paris et Lille, mis à part peut-être une demi-heure en première mi-temps contre le PSG, t'es une équipe qui est amorphe, t'es une équipe qui est résignée. T'es une équipe qui est résignée. T'es une équipe qui, je pense, a compris que... Alors ok, il y a un quart de finale de Coupe d'Europe, mais de là à penser qu'ils vont la gagner, il faut peut-être pas rester. Je pense qu'ils ont compris qu'il n'y aura pas d'Europe via le championnat, qu'il faut arrêter de rêver, que quand t'es pas foutu d'aligner 3 victoires de suite et que t'es pas foutu de battre une des 7 équipes qu'il y a devant toi, même avec beaucoup de places européennes aujourd'hui, comment expliquer que tu vas y aller? Je rappelle que Lyon est revenu à 1 point. Je pense que ça veut dire énormément de choses.
On va en parler. Pour l'instant, Marseille est 8e, à 1 point de Reims, à 4 de Lens, à 5
et
de
il
Nice.
Faut, et il faut, ça, alors, pour la Ligue sans, Europa, sans la Ligue expliquer Europa que Nice est je sais pas quoi, il faut expliquer le calendrier. Il y a Nice, il y a Toulouse, qui n'est jamais une équipe facile à jouer, Toulouse. Et derrière, tu fais Lens. Et dans la foulée, je crois que tu fais Reims. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 4 prochains matchs, peut-être que tu ne joues plus, mis à part Lens, peut-être des concurrents directs, mais c'est-à-dire que c'est des équipes que tu n'as même pas l'assurance de battre. Et moi, c'est ce que je déplore sur cette fin de saison, c'est l'abandon, la résignation, et le mot est bien pesé, l'abandon d'état d'esprit de l'Olympique de Marseille.
Moi, je crois qu'ils ont abandonné quand ils ont été sortis de la Ligue des Champions. Parce que c'est des joueurs qui viennent, qui se disent, on va signer à l'OM, c'est un tremplin. On va briller en Ligue des Champions. Moi, je crois qu'Aubameyang, les joueurs comme Ndiaye, tout ça, on leur a vendu le projet de Ligue des Champions. Depuis qu'ils ont été éliminés, il y a eu un passage à vide. Après, Cassier est revenu pour reprendre...
Mais ça, ça s'appelle une faute professionnelle.
C'est exactement ça. Parce qu'on a, vu, on a changé deux entraîneurs et rien n'a changé. C'est-à-dire, c'est le même état d'esprit que dénonce comment ça s'appelle, Naïm. Ils n'y mettent pas du sien.
Il faut dire la vérité, c'est que Longoria a une immense part de responsabilité dans ce qui se passe à Marseille.
Avec son recrutement, je suis d'accord.
C'est au-delà du recrutement, le fait de dégager chaque entraîneur tous les ans. Et il faut quand même se poser la question, pourquoi les entraîneurs ne veulent pas rester? Moi, je pense qu'un mec comme Tudor, je pense que dans l'idéal, rester à Marseille une année de plus, ça ne le dérangeait pas, surtout s'il y a une Ligue des Champions au bout. C'est un président qui joue au directeur sportif, mais qui est un mauvais président. L'histoire où il s'est mis à chialer devant la Provence parce qu'il s'était pris une cartouche par les supporters, déjà, ça a tué toute sa crédibilité. Trois entraîneurs dont aucun n'a rien à voir avec l'autre, recruter des joueurs qui ne correspondent pas au jeu de l'entraîneur qui arrive. Tu évolues dans un environnement qui est délétère au possible. Ce qui s'est passé contre Lyon au match aller, ça retranscrit bien ce qui se passe à l'OM. C'est, en termes d'extra-sportif, c'est probablement une des pires saisons de l'OM sur les 10 dernières années. Ce qui se passe en coulisses, c'est une horreur à Marseille, il faut le savoir, attention. Donc, et c'est pour ça que moi je souligne la belle saison d'Aubameyang, au moins d'un point de vue statistique, c'est que mettre 23 buts et 9 passes des dans un capharnaüm comme ça, c'est respectable. Et l'OM paye une fois de plus sa mauvaise organisation, sa mauvaise gestion. Benatia qui est là juste pour faire la moue un peu en tribune quand il y a une caméra qui est dessus. Ce club est détestable et je plains les supporters une année de plus parce qu'en fait, tu as fait deux pas en avant sur les deux dernières années, quatre pas en arrière cette saison.
Allez, voilà pour Marseille. Je vais directement, Franck, vous demander votre avis sur si Marseille se plante. Lille est en train de pourquoi pas de viser le podium, en tout cas, clairement, d'asseoir ses prétentions à jouer une nouvelle Ligue des Champions la saison prochaine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Lille qui a battu Marseille vendredi. Lille, 3 victoires et 2 nuls en Ligue 1 depuis le 25 février, donc pas une défaite. Voilà, ça marche bien, Lille. Et là encore, j'espère ne pas trop m'avancer, mais ça doit vous plaire.
Oui, ça me plaît. Enfin, moi, j'aime bien les clubs nordistes. Alors après, c'est compliqué de les aimer tous. Généralement, on nous dit qu'il faut en choisir un. Mais y a, là encore, effectivement, il y a une dynamique, une vraie dynamique. Il n'y a pas d'effet de manche. On fait, ouais, on va aller chercher l'Europe. Non, voilà, ils gagnent les matchs. Ils profitent de cette équipe. Entrée, c'est ouvert. Là, parce que c'est ça, l'OM, hein, depuis le début. J'ai pas parlé ces dernières minutes, mais l'OM, ça a été ça. Le mouvement perpétuel, mais vers le bas. Et eux, on profite.
Avec des hauts et des bas. Quand ouais, Tom Gasset arrive tout d'un coup, oui. Bon, il joue pas les grosses équipes et il se qualifie.
Enfin, là, oui, effectivement, dès que tu joues une équipe de, je dirais, bien organisée sportivement, et puis une équipe qui sait être efficace aussi, bah, d'abord, c'est plaisant de les voir évoluer comme ça. Ça rappelle.
Les Lillois, bien sûr.
Ouais, ça rappelle certaines.
C'est l'équipe qui joue le mieux au foot en Ligue 1.
23 buts pour Jonathan David, 23 buts toute compétition.
En Ligue 1. Et ce qui me. C'est le contraire de l'Olympique de Marseille. Parce que là, vous allez à Lille. L'entraîneur n'est pas sûr de rester. David n'est pas sûr de laisser. Lignoro n'est pas sûr.
Mais ils font le taf, j'allais le dire.
Exactement.
Ils ne sont pas dans le calcul.
C'est l'équipe qui joue le mieux. Je pense que c'est tout simplement l'équipe qui joue le mieux. Lille joue mieux que le PSG avec des joueurs, malheureusement, ligne par ligne, qui sont moins forts. Mais dans l'expression collective, dans le jeu, dans la manière d'amener le ballon vers l'avant, moi, un garçon comme Zegrova, je le regardais vendredi soir, j'avais de l'amour dans les yeux. Il pue le football à des kilomètres, ce garçon. Ben Taleb, qui sera d'ailleurs pas très loin du prix Marc-Vivien Fouet, je dis ça, je dis rien. Mais enfin, c'est cette équipe et l'équipe.
Sur le podium, sans doute, il le mérite largement. Après, oui, on verra bien ce que la centaine. Vous avez voté déjà, vous?
J'ai pas voté pour lui. Ça veut dire que j'ai pas encore voté, en fait.
Non, moi non plus.
Je sais que tu gardes.
Personne n'a encore voté. On attend.
Moi, j'ai voté quand même. 22 ou 23. J'ai voté, mais j'ai le garde.
C'est l'équipe. Est-ce que tu as voté pour Ben Taleb?
Je dirais pas.
22, 23 avril, la date limite, et on rappelle le nom de l'heureux élu le 13 mai dans la matinale des RFI. Il y aura bien sûr ce jour-là une émission spéciale.
Mais c'est l'équipe qui joue le mieux au foot, enfin, il faut le dire, parce que Monaco a des résultats, il y a des beaux joueurs, et puis globalement, c'est pas mauvais si t'es pas à ce niveau-là, même Brest. Mais Lille, c'est du jeu pur.
C'est pas clinquant,
hein, mais ouais, puis c'est du vrai fond de Seca, quoi, tu vois. Ça pue le football, et avec des joueurs qui sont devenus des super joueurs, mais qui ne l'étaient pas au départ. C'est-à-dire que regarde la dimension de Zegrova, regarde Yoro, regarde tous ces mecs-là. Tu sais que ça a pris 50 millions de valeur marchande sous fond de Seca.
Et vois, même le gardien de but.
Ouais, Chevalier. Ah oui. Mais le seul vrai ch'ti du coin, en plus, hein, pour le coup.
Et pour moi, cette année, c'est le meilleur gardien de Ligue 1.
Très chouette reportage sur lui hier chez nos amis de Canal+. où on voyait des images de lui tout petit et de voir comment Grégory Van Bee l'avait repéré, enfin, et d'autres.
Ouais.
Oui, excellent jeune gardien.
Ils ont misé sur le bon cheval.
Lille a 5 points d'avance. Lille 4e a 5 points d'avance sur Nice, qui est en pleine dégringolade. Sur Lens, il y a 6 points. Donc, c'est vrai que ça sent bon la Ligue des Champions. On rappelle, à six journées de la fin.
De toute façon, c'est terminé. Hein. Le coach l'a dit, c'est... Voilà.
Un mot rapide sur Brest, parce que je voudrais qu'on parle quand même 2-3 minutes de Lyon. Un mot rapide sur Brest, qui a eu du mal. Bah oui, finalement, du mal.
Le
face
vent
à Metz.
Le vent en poupe au début, puis ensuite. Ouais,
voilà, exactement.
Vent de face.
4-1, et puis 4-3, et puis on a cru même qu'ils allaient se faire rejoindre. 15e victoire cette saison. C'est un record pour le stade brestois, à condition de ne pas être suffisant, ça devrait le faire. 9 points d'avance sur Nice, le 5e, 10 sur Lens. Ils seront en Ligue des Champions. Ils ne vont pas perdre 9 points en 6 journées.
Avec qui après?
Vraisemblablement, oui, parce que de toute façon...
Ça, c'est la grosse cote.
C'est une équipe... C'est même plus qu'une grosse cote.
Ils n'ont même pas un stade au Nord, mais ils vont les jouer à Rennes.
48 millions de budget.
Ouais.
48 millions de budget. L'OM, c'est 270.
Et ça prouve qu'on peut.
Non, puis c'est une équipe, contrairement aux équipes que tu as citées, que ce soit Marseille, que ce soit Lens, que ce soit Nice, c'est une équipe qui fait une série. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable d'enchaîner les victoires, ce que ne fait pas les autres. C'est en réalité le travail des 18 derniers mois, puisque quand il est arrivé, Roy, je peux dire qu'il a tout fait, mais enfin, c'est quand même à partir de là que l'équipe s'est d'abord maintenue correctement, puis aujourd'hui fait une saison fantastique. C'est sans prétention, ça joue bien, ça va vers l'avant, ça prend des buts, mais en même temps, quand tu assumes autant le déséquilibre, tu ne peux pas ne pas prendre de buts. Ce que je revois, c'est qu'ils prennent 3 buts contre Metz, mais quelque part, c'est normal qu'ils prennent 3 buts contre Metz. Brest, au départ, c'est une équipe qui est censée jouer le maintien contre eux. Mais qu'ils en marquent 4, c'est fantastique. Et je suis content de les voir en Ligue des Champions parce que c'est frais, parce que ça prouve que quand on travaille bien, mais avec peu de moyens.
Est-ce que ça va rapporter des points à la France?
Ça va forcément rapporter des points à la France, puisque c'est une équipe. Oui, alors après, oui, je te dis pas qu'ils sortiront de la poule. Hein, l'année prochaine, c'est vu en plus le format, ça va être compliqué. Mais moi, je suis content de voir qu'une équipe avec peu de moyens. Je préfère voir une équipe comme Brest qui est en Ligue des Champions plutôt que de voir le président du Havre qui va chouiner. Luis Enrique, il joue pas le jeu et machin. Bah, tais-toi et regarde ce que fait ton voisin. Bref, c'est fantastique.
Et puis, il y a Kamori Doumbia, le Malien, qu'on aime vraiment, vraiment bien et qui aurait pu être dans la liste.
Et
Mounier qui a marqué hier le Béninois. Voilà, nous,
Kamori Doumbia, pour moi,
c'est
l'un des meilleurs Africains de la Ligue 1 de cette saison. Il fait une saison extraordinaire. Il a déjà 6 buts. Pierre-Emerick Aubameyang a 9 buts comparé. Voilà, et en avançant entre lui et milieu terrain.
Allez, quelques mots de Lyon, victorieux 3-1 à Nantes. Les Lyonnais, je vous donne juste cette stat, on en parle 2 minutes et après on va vers l'Afrique. 7 points marqués après 14 journées. On commençait à se demander si Taylor Swift n'allait pas devoir changer de lieu pour son concert au stade de Lyon début juin parce qu'on se disait, tiens, ils vont jouer les barrages à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? 7 points après 14 journées, 14 journées plus tard, ils en ont 31 de plus, c'est-à-dire 38. Depuis le 26 janvier, c'est une défaite, un nul et 7 victoires. Tout ça, c'est Pierre Sage.
C'est Pierre Sage.
C'est l'entraîneur,
c'est,
pour nos auditeurs.
C'est le mercato
hivernal
aussi qui a quand même bien redistribué les cartes parce que c'est quand même plus du tout le même effectif sur la deuxième partie de saison que sur la première. Et puis, c'est le fait que quand tu es relégable et que tu es même sur une certaine période dernier ou quasiment, bah, tu ne peux pas aller plus bas. Donc, mais ça valide aussi le travail d'un garçon comme Lacazette, qui est absolument fantastique. C'est bien que l'équipe se soit constituée autour de lui, qu'il y ait de la qualité en plus. J'avais dit au mois de février, j'ai fait un tweet, Lyon pourrait finir devant Marseille en termes de points. Ils sont revenus à un point. L'Europe, ça sera compliqué, très compliqué.
Ils sont dixièmes à un point de Marseille, on l'a dit. Donc ça veut dire, pour l'Europe, si on considère que le cinquième et le sixième seront européens, ils sont à 6 points de Nice et de Lens.
5 points de la Conférence Ligue. 5 points de la Conférence Ligue. Donc les équipes devant ont pris
des points. Ils sont en finale de la Coupe de France. Finale de Coupe de France le 25 mai ou le 24 mai. Face au Paris Saint-Germain. À Lille. Un mot rapide sur les Lyonnais. On écoute Pierre Sage, tiens, rapidement, et après je vous demande à chacun, Yoro et Franck, un mot.
Quand on est dans l'initiative et qu'on prend un but, on a l'impression de ne pas être récompensé, mais le football est parfois injuste et il faut aller au-delà de cette injustice. C'est ce qu'ils ont réussi à faire à partir de la deuxième mi-temps. Même en fin de première mi-temps, je pense qu'on a des situations où on peut au moins égaliser. Mais voilà, on sait que tout est possible. On a renversé tellement de choses, que ce soit sur le plan du championnat, mais aussi des matchs, qu'aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Et c'est pour ça que le match, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, il continue à se jouer. Et nous, on le jouera toujours à fond. Et les joueurs ont conscience de ça. Et je dirais qu'on ne le répète jamais, en fin de compte, parce que c'est en eux.
On ne s'interdit rien, même pas à rêver d'Europe. Ça fait plaisir de voir cette équipe revenir, mais surtout avec cet homme... dont personne n'avait entendu parler il y a quelques semaines encore.
Pierre Sage, qui a travaillé avec un certain Habib B, qui était souvent dans ce studio.
Belle référence.
Exactement.
Habib, si tu nous écoutes, on t'attend toujours. Tu viens quand tu veux. Tu préviens avant.
Ils ont eu pas mal de gifts lors du marché de Noël, dont Gift Orban.
50 millions d'euros investis, mais bon,
ben
voilà.
Oui, ben voilà. Donc, ça a marché. Quand on fait Fofana, Gift Orban, ça aide avec...
Benrahma.
Oui, Benrahma. Ils ont quand même recruté au mois de,
ben, c'est ça, hein.
Le mois de janvier.
Un petit mot, Franck, sur les Lyonnais.
C'est un comeback que, très honnêtement, j'avais pas imaginé.
Je pense que personne. Ouais.
Franchement,
vous pouvez l'avouer. Vous n'êtes pas
non,
seul.
Non, mais c'est pas de l'avouer. C'est vrai que c'est pas une équipe que je suis tout spécialement, mais c'est voilà. Il y a quand on travaille, qu'on travaille un peu plus silencieusement que ces derniers temps, ça fonctionne. Ils font série. Ils ont un entraîneur de, je pense, très intéressant, un homme de qualité. Et puis vous le disiez, il y a la casette, ça aide.
Et puis surtout, arrêter d'aller chercher des entraîneurs aux quatre coins du monde. Quoi. Il y a un savoir-faire en local, parce que Lyon est un super club formateur pour les joueurs et pour les coachs, les éducateurs. C'est bien d'avoir des Français. Quoi.
Voilà pour la Ligue 1, voilà pour l'Europe, direction l'Afrique, le continent et ses Coupes d'Afrique des clubs. La Ligue des Champions, pour commencer, puisqu'on connaît le dernier carré, le TP Mazembe a écarté le Petro Luanda, les Angolais, dans les toutes dernières minutes. Hein. C'était chaud, Franck. Hein. C'est vous qui l'aviez commenté, ce match-là?
Exactement.
Parce qu'il a fallu attendre les 82e et 96e minutes pour voir la victoire se décider.
Ils étaient qualifiés avec le nul, voilà.
Il y avait eu 0-0 à l'aller.
82e, les qualifiés.
La SEC Mimosa a eu moins de réussite. 0-0 à l'aller, 0-0 au retour face à l'Espérance.
Très prévisible.
Et au tir au but, ça n'a pas tenu, c'est l'Espérance qui passe. Et puis, la veille, Mamelodi Sundowns, bon, bah, c'est sans surprise, façon Young Africans.
Ouais, avec surprise quand même, je crois que le but aurait pu
voilà,
être validé.
Voilà, j'allais y venir, cette frappe qui prend la barre et qui rentre, sans doute, c'est compliqué à voir.
Moi, j'ai dit, j'ai dit que c'était rentré, mais malheureusement, l'arbitre, pourtant l'excellent Mauritanien Beïda Daran, n'est pas allé vérifier lui-même. Et donc,
il aurait dû. Et puis le tenant du titre, bien sûr, Al Ahly, qui a sorti Simba de Tanzanie. Là, il y a eu un peu moins de suspense.
On a quatre anciens champions et le tenant du titre dans le dernier carré. Donc, c'est que de la logique.
Bah, c'est plutôt pas mal. Glody Likonza, on l'écoute, le milieu congolais du TP Mazembe, quand même.
C'était pas facile pour nous de prendre et d'encaisser en première mi-temps. Et malgré tout, on avait eu l'occasion de revenir au score. Sinon, à la mi-temps, les coachs nous ont dit de jouer, de continuer à pousser. Et d'abord, ce n'était pas facile. On a fait l'essentiel. On avait eu beaucoup de mal pour concrétiser nos occasions. Au match retour, on a réussi à concrétiser nos occasions. On a marqué des buts. C'était un peu ça la différence entre tous les deux matchs.
Je ne sais pas où il était, Glody Likonza, mais il faut qu'il en sorte très très vite. Le TP Mazembe de retour dans le dernier carré. On sait que c'est un grand d'Afrique, 5 fois titré. Si mes souvenirs sont bons, la dernière fois, c'était il y a quelques années quand même.
Ouais, le renouveau, c'est tout simplement avec le retour de Lamine Diaye.
Exact.
Sur le banc.
On est tous d'accord, on le salue lui aussi.
Parce que on le salue.
C'est un homme charmant du football, vraiment.
Un bosseur.
Super entraîneur, bosseur. Lui aussi, il s'invite quand il veut, Lamine, faut venir.
Il a du boulot là, il a deux matchs. De play-off à jouer là en quelques jours. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à mettre 2 buts et une équipe qui était invincible, hein, qui était totalement hermétique en Ligue des Champions, le Petro Atlético.
Ils ne marquaient pas à l'extérieur en plus, le TP.
Et eux ne marquaient pas en phase de groupe. Donc voilà, ils ont tout réussi. Et franchement, là, on se dit que tout est possible, même si le match retour sera en Égypte contre le
champion. Oui, parce qu'ils vont jouer à l'Ahly, match aller du côté de Lubumbashi. Et puis l'autre demi-finale, ce sera Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns.
La bonne nouvelle pour le TP Mazembe sur cette demi-finale, c'est que c'est tellement imprévu. Je ne parle pas d'historique, je parle sur les 3-4 dernières années. C'est tellement imprévu de la retrouver là que c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Tu n'as rien à perdre quand tu es en demi-finale, tu as envie d'aller au bout. Mais c'est tellement fou qu'ils soient là. Ils ne sont pas favoris contre le Al Ahly. Ils n'auraient pas été favoris non plus contre les Mamelodi Sundowns ou contre Tunis. Mais lâchez-vous tout simplement.
Parce que la dernière fois qu'ils ont fait quart de finale, c'était en 2020. Ça fait quand même 4 ans. Ils n'ont pas fait.
Non, mais là, ils sont.
Mais là, ils sont en demi.
Ils sont en demi. Ils ont fait.
Ils ont leur chance. Ils ont vraiment leur chance, justement parce qu'ils sont décomplexés, parce qu'ils ont été battre le Petro chez lui. Et puis que Lamine Diaye, La qualification, la victoire doit beaucoup à son flair tactique quand même.
Et puis peut-être
avec la titularisation de Zemenga au milieu.
Oui, peut-être Zemenga, pourrait-il avoir eux aussi un supplément d'âme puisqu'il se dit, il le dit lui-même, Moïse Katumbi, le président depuis 1997, qu'il pourrait quitter le football, se retirer du TP Mazembe. Ça n'est pas confirmé, mais une annonce, nous dit-on, dans le cercle très proche de Moïse Katumbi pourrait intervenir. Bientôt, mais bientôt, ça peut être des jours, des semaines, des mois. On espère que ce sera des mois parce que c'est un personnage du football africain et on connaît son importance. Alors, aller gagner pour lui, pourquoi pas. On le salue lui aussi. S'il annonce quelque chose, président, c'est sur Radio Foot qu'il faut l'annoncer, nulle part ailleurs. Qu'est-ce que j'en fais de la retape aujourd'hui. Le dernier carré, on l'a dit, ce sera 19-20 avril pour les matchs aller, 26-27. 3 minutes pour parler de la C3 quand même, mon cher.
C2.
C3. Oui, comme en Europe. Ouais. On écoute Juan Carlos Garrido, l'entraîneur de l'USMA, qui s'est qualifié cette nuit. Hein, le match a débuté à minuit heure de Paris, Ramadan oblige. On écoute Juan Carlos Garrido.
Je pense que notre équipe a fait un très 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 bon match. Heureusement, on a joué déjà beaucoup de matchs comme ça. Je pense que l'équipe a fait un très bon match à niveau offensif et surtout à niveau défensif. Mais spéciale félicitations à toute l'équipe pour la manière de gérer les matchs, pour la manière de jouer les matchs. Je pense que cette équipe, il y a des joueurs qui sont vraiment professionnels et je pense que sont des personnes pour donner les valeurs.
L'USM Alger, qui est le tenant hein, de cette C2, qui avait été battu à Rivers United au Nigeria 1-0, qui a gagné 2-0 la nuit dernière. Les autres résultats, on les donne rapidement. Renaissance Berkane, les Marocains, qualification après une victoire 3-2 face à Abou Salim, les Libyens. Il y avait 0-0 à l'aller. Et puis Dreams FC, les Ghanéens, 1-1 face au Stade Malien, qui est passé tout près finalement, mais qui avait été battu à Bamako 2-1 au match aller. Enfin, le Zamalek du Caire, qui a sorti Modern Future, une autre équipe égyptienne. Ça nous donnera en demi-finale USM Alger, les tenants contre Berkane, et Zamalek contre Dreams FC. Pareil, c'est dans 15 jours. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher Franck?
L'USMA avec l'envie de conserver son titre. On a 3 anciens vainqueurs et un néophyte, les Ghanéens de Dreams.
On a quand même 2 super derniers carrés.
Oui, on a 2 super derniers carrés. Le Zamalek, on retrouve quelqu'un qu'on a connu en équipe nationale du Cameroun, c'est André Biquet, qui est l'entraîneur adjoint du coach José Gomez. Berkane qui a gagné 2 fois, donc finalement la surprise, c'est Dreams. Je pense qu'il risque de se faire quand même croquer par le Zamalek qui n'est pas terrible à voir évoluer, mais qui est tellement solide.
Ouais, là aussi, c'est historique.
Ça sent Usma Zamalek en finale.
Et puis Usma, hier, le doublé, c'est Koné, un Malien qui a évolué.
Kanou,
plutôt. Il y a 2 ans, il est invité au Tengue Football Club, championnat sénégalais.
Bien sûr.
C'est un super
attaquant.
Super attaquant, super transfert.
Super attaquant, Kanou. Et puis, une petite dédicace pour Armel Ouaba, un confrère qui habite à Lomé au Togo, qui nous écoute.
On le salue.
Qui nous écoute, bien sûr qu'on le salue. On a 2 beaux derniers carrés. On aurait bien aimé voir le Stade Malien. C'est compliqué. Ils ont atteint leur plafond de verre, hein, les Maliens, Franck. C'était trop. La marche était trop haute cette fois.
Ouais, dommage malheureusement pour ce beau Stade Malien.
Et pour les Maliens qui nous écoutent, on sait que c'est compliqué peut-être via Internet, on les salue tous malgré tout. Merci messieurs d'avoir été avec nous, merci Mathieu De Gueldre, Pierre-Olivier Guérin. On l'a dit, demain c'est le retour de la dame, et oui, elle sera là avec vous et on parlera bien sûr, elle vous parlera Ligue des Champions. On a une semaine européenne de déglingo à venir et on va pas bouder notre plaisir. Allez retrouver votre fils, mangez pas tous les bonbons Franck Simon.
J'ai commencé.